France Culture. Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, réalisé par Perret Legras avec Avril Ventura, la programmation. Avril qui s'occupe aussi de notre page web sur franceculture.fr. Aujourd'hui, grand entretien avec l'anthropologue Philippe Descola. Philippe Descola nous a fait reconsidérer l'idée de nature. Nous sommes partie prenante de notre environnement et le protéger, c'est prendre soin de nous-mêmes. En mars 2025, cet immense penseur a inauguré une manifestation académique appelée « Printemps des humanités ». Après l'avoir écouté devant une salle comble du campus Condorcet, près de Paris, j'ai eu envie de lui proposer un entretien sur l'éducation. L'éducation, donc celle que lui-même a reçue, pour commencer, et les traces de ses premières lectures. Chez celui qui a fait de si grandes études, c'est important. Mais Philippe Descola, c'est aussi un homme qui a dû tout réapprendre, comme un enfant, dit-il, sur le terrain, en Amazonie. Puis nous évoquerons la manière dont les atuards, dont il a partagé le quotidien tant d'années, y compris avec ses propres enfants, acquièrent savoir et culture. Et nous parlerons du rapport qu'ils entretiennent à l'enfance. Nous interrogerons aussi la place de la question environnementale dans notre éducation, en évoquant par exemple l'engouement actuel pour l'école dans la forêt. Enfin, nous aborderons la belle question du renouvellement des humanités à la lumière d'un répertoire de savoir plus vaste et surtout plus divers. J'ai retrouvé Philippe Descola dans son bureau de l'Institut des civilisations dans le 5e arrondissement, à Paris. Et pour commencer, je voulais connaître son sentiment sur le fait d'être devenu un intellectuel si reconnu, une telle référence, et de voir sa pensée enseignée.
Je n'y pense que très occasionnellement parce que je sais que j'ai enseigné à des cohortes d'étudiants lorsque j'enseignais d'abord à l'École des hautes études en sciences sociales et puis au Collège de France. Mais c'est quelque chose qui se rappelle à moi lorsque des personnes viennent me voir et disent « j'étais en classe préparatoire » ou bien « j'étais à l'université, et j'ai lu vos livres, on les a commentés, j'avais un prof qui nous a dit qu'il fallait vous lire, etc. » Et donc je me suis aperçu à travers ces témoignages de la diffusion de ce que j'avais pu faire, en effet. Je n'en tire pas une gloriole particulière, mais je suis content de ce que, après avoir défriché un champ de recherche où je me sentais assez seul, il y a presque 40 ans, je suis maintenant reconnu comme étant à l'origine, sans doute, d'un courant de pensée, en tout cas d'une façon de poser des problèmes qui a fait beaucoup d'émules.
On va aller sur le terrain de l'enfance et d'abord de la vôtre, Philippe Descola. Comment c'était l'école pour vous ?
Au début, c'était catastrophique. J'étais à l'école primaire, j'étais dans une école religieuse où mes parents m'avaient mis par commodité parce que c'était près de la maison, j'habitais au cœur de Paris. Et je me suis heureusement fait virer de cette école pour imbécilité congénitale. Et donc j'ai été ensuite dans une école publique. Les petites classes, j'en garde un plutôt mauvais souvenir. J'étais pas très bon élève, sauf en français et en histoire, où j'avais toujours les meilleures notes. Mais pour le reste, c'était assez médiocre. Et je n'ai commencé à avoir véritablement des bonnes notes qu'à partir de la troisième, c'est-à-dire de ce qui serait maintenant le lycée, parce qu'on nous laissait une plus grande liberté d'action, de penser, et une plus grande capacité, au fond, à avoir des vues personnelles sur les questions que l'on traitait. Voilà, donc ça a très mal commencé, et puis ça s'est fini à peu près bien, disons.
Qu'est-ce qui vous a ouvert au monde, qu'est-ce qui a attisé votre curiosité d'enfant, qui va devenir une curiosité d'adulte? Et par exemple, que lisiez-vous?
Alors, c'est les livres, effectivement, qui ont attiré ma curiosité. Je viens d'un milieu de la bourgeoisie catholique parisienne. Mon père était historien. Et il y avait une grande bibliothèque à la maison. Et donc, mes parents étaient très libéraux, me laissaient lire à peu près tout ce que je voulais. Tout en guidant un peu mes lectures, les souvenirs les plus anciens, ce sont des livres de, comment dire, ce sont des livres qui faisaient une sorte de résumé des grands textes classiques, que ce soit les comédies de Shakespeare ou bien l'Iliade et l'Odyssée. Et donc j'ai appris d'une certaine façon la vie dans les livres avant de découvrir la vie réelle. Et je pense par exemple à un livre qui m'avait beaucoup frappé, qui est un roman picaresque de Le Sage, qui s'appelle Gilles Blas de Santillane. Comme dans tous les romans picaresques, ça s'est situé en Espagne, hein, bien que l'auteur soit français, qui est l'histoire d'un picaro, c'est-à-dire d'un aventurier, qui connaît toutes sortes d'aventures et de péripéties dans l'Espagne du siècle d'or, et qui rencontre un très grand nombre de gens. Et c'est ça qui me fascinait, au fond, c'était la diversité des personnages qu'il rencontrait, des situations dans lesquelles il se trouvait, que ce soit des gens de la haute société ou que ce soit des bandits de grand chemin. J'ai retrouvé ça ensuite, bien sûr, quand j'étais un peu plus âgé dans Don Quichotte, hein. C'est ça qui m'a formé, au fond. C'est, je pense, un des paradoxes de beaucoup d'enfants qui ont eu une enfance littéraire. C'est qu'ils découvrent la vie, une vie un peu particulière, qui est celle que les littérateurs décrivent, avec certaines formes de sentiments, certains types de relations entre les gens. Par exemple, j'ai été horrifié par la violence des Grecs dans l'Iliade, la cruauté des combats... Et les difficultés de cette quête d'Ulysse qui essayait de rentrer chez lui et qui n'y arrivait pas, etc. Donc, je vibrais à ça autant qu'aux bandes dessinées que je lisais aussi. J'étais un amateur de Tintin, bien sûr, et de Blake et Mortimer. Donc, tout ça m'a formé un imaginaire qui s'est, sinon affronté, en tout cas, qui a tenté de combiner ce que j'avais appris dans les livres avec ce que j'ai observé ensuite dans la vie. Bien sûr, je n'étais pas fils unique, puisque j'avais une sœur aînée, mais avec une grande différence d'âge, et donc j'ai été élevé quasiment comme un fils unique. Et sur le terrain, on découvre toutes ces choses-là, qu'on n'a jamais vues avant, mais dans avec des sous-titres différents, si je puis dire. C'est-à-dire, au fond, c'est un monde qu'on apprend à déchiffrer, parce qu'il est écrit dans une langue qu'on ne connaît pas, si je puis dire. Et donc c'est à la fois des sentiments, des passions, des caractéristiques de la nature humaine qui sont tout à fait identifiables, mais qui se présentent à nous sous une forme tout à fait singulière, puisque c'est celle qu'une autre civilisation a donnée à ces manifestations.
Faire de l'anthropologie, rencontrer des populations très différentes de nous, c'est mesurer aussi des distances, mais je pense que c'est aussi se voir soi à certains moments qui ne sont pas ceux du travail peut-être, mais peut-être que si. Et est-ce qu'à ces moments-là, quand vous étiez dans la forêt amazonienne, vous repensiez à votre enfance et peut-être aux rêves que vous formuliez quand vous étiez enfant et que vous lisiez ces romans picaresques?
Pas sur le moment. Ce qui m'a surtout frappé sur le terrain, c'était de savoir ce qui me manquait. Et effectivement, ce ne sont pas tellement des aménités ordinaires, c'est de vivre confortablement, d'avoir un lit pour dormir, de pouvoir prendre une douche chaude ou des choses comme ça. C'était surtout ce qui me manquait en termes de ce qui avait marqué, au fond, mon enfance et mon adolescence auparavant, c'est-à-dire précisément des livres. J'en avais amené quelques-uns, bien sûr. Il faut bénir la Pléiade parce que ça fait beaucoup de textes dans un format transportable. La musique, les tableaux aussi, l'art et certains types de paysages qui évoquaient d'ailleurs aussi une sociabilité. Je me suis rendu compte à ce point-là que j'étais un homme du sud de la France, du sud-ouest de la France. Ma famille paternelle est originaire de l'Ariège, mais mes parents ont acheté, quand j'étais enfant, une maison dans le sud-ouest, dans le Quercy. Et j'ai donc beaucoup navigué avec mes parents dans le quart sud-ouest de la France. Et c'est là, au fond, que je me sentais bien, par habitude et par éducation. Et ce genre de paysage, ces villages, ces bastides perchées sur des collines, avec des plaines, avec des rivières bordées de peupliers, les cyprès en haut des collines, les églises romanes, toutes ces choses-là qui me paraissaient normales, naturelle, qui paraissait un cadre de vie ordinaire, en quelque sorte. Lorsque j'en ai été privé, j'en ai ressenti le besoin. Et c'est, au fond, le terrain. On reproche quelquefois aux anthropologues de pratiquer une sorte de relativisme moral en adoptant les valeurs complètement des civilisations qu'ils fréquentent au quotidien, alors qu'en réalité, l'anthropologue est mieux placé que quiconque pour savoir ce qui, dans sa propre civilisation, lui plaît ou lui déplaît. Lui plaît parce que ça lui manque quand il en est privé, et lui déplaît, ça c'est au retour, lorsqu'on s'aperçoit que certaines choses qui vous avaient déjà paru contestables avant de partir vous apparaissent soudain dans toute leur crudité comme profondément iniques. L'inégalité patente, le règne de la marchandise. C'est surtout la mercantilisation qui m'a frappé au retour, c'est-à-dire le fait que tous les rapports entre humains sont médiatisés par des marchandises. Et je venais de passer plusieurs années dans une population où il n'y avait pas d'économie marchande, où les gens produisaient ce qu'il était nécessaire à leur existence et où les échanges étaient fondés sur la nécessité de renforcer des liens entre des personnes par l'intermédiaire d'objets dont la valeur en soi n'était pas très importante, mais n'était que le prétexte de ce renforcement d'une relation ou de l'établissement d'une relation. Et donc toutes ces choses-là devenaient soudain très très évidentes au retour. Et l'anthropologie permet cet aller-retour, hein, c'est-à-dire à la fois cette approche réflexive vis-à-vis de ce qu'a été votre passé avant, et au retour, la conscience claire des avantages que l'on récupère, parce que à nouveau la littérature, la musique et les paysages sont là, et en même temps des conditions dans lesquelles ces choses-là vous sont données, et qui sont souvent des conditions insupportables.
Je ne sais pas si vous avez été frappé en revenant de votre terrain et en revenant de vos voyages en général, de l'aspect un peu compétitif de notre société, mais vous, vous avez fait partie de l'élite scolaire. Vous êtes normalien, Fontenay-Saint-Cloud, c'est pour ça que vous avez été payé pendant vos études. Ce sont des conditions extrêmement privilégiées pour ceux qui accèdent. Et en même temps, on sait que le monde scolaire français est compétitif, qu'il enregistre une grande reproduction. Tout simplement, est-ce que vous vous sentez appartenir à un genre d'élite scolaire, même si ça fait longtemps? Mais j'ajoute qu'en France, ces diplômes obtenus très jeunes comptent toute une vie.
Oui, vous avez raison, mais c'est un peu un paradoxe, c'est que le système était probablement un tout petit peu moins élitiste à l'époque dans laquelle j'étais engagé, dans la mesure où certains de mes camarades venaient de milieux populaires ou même de familles paysannes. Je pense que c'est devenu très très rare maintenant avec les dispositifs de sélection tels qu'ils fonctionnent. Mais une façon évidemment pour nous de réagir à cela, nous en avions bien conscience, c'était de se dire, puisque nous avons entre les mains cette éducation qui nous est fournie de très grande qualité, nous avons une responsabilité en tant qu'intellectuels de penser le monde et d'essayer de le réformer. Donc nous étions tous des militants politiques, en fait. Il y avait même quelques royalistes, donc c'était qu'on regardait avec un peu de commisération comme des résidus folkloriques. Pour l'essentiel, on était tous des militants marxistes, de toute l'amplitude, en fait, de la gamme des militants tels qu'ils existaient dans les organisations de gauche et d'ultra-gauche à l'époque. Donc on compensait, en quelque sorte, notre conscience d'être des héritiers, des privilégiés, par l'intervention politique. Mais c'était une intervention politique qui était, je m'en suis rendu compte après, extrêmement élitiste. C'est-à-dire, on arrivait comme des prophètes, imaginant qu'on allait porter la bonne parole au prolétariat pour que le prolétariat devienne, se constitue en avant-garde pour faire la révolution. Donc on avait un rôle de leader intellectuel que je trouve maintenant profondément frappé de condescendance et d'arrogance. Il a fallu que j'aille en Amérique latine et que j'y vive plusieurs années pour me rendre compte que les luttes politiques menées par les populations paysannes et amérindiennes en Amérique latine étaient fondées sur tout autre chose et que leurs débouchés, qui étaient orientés là aussi, enfin, par des militants du même genre que celui que j'étais lorsque j'étais étudiant, qui étaient des étudiants urbains, qui n'avaient qu'une connaissance très approximative de la réalité de la vie dans les campagnes et dans les communautés autochtones, avaient le même genre d'aspiration que moi. C'est en les observant que je me suis rendu compte, rétrospectivement, à quel point j'avais fait fausse route.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
On va aller un petit peu en Amazonie, on va même y rester un certain temps. Parmi les Achuars. Vous êtes restée d'ailleurs avec votre compagne, Anne-Christine Taylor. Mais moi, je voulais parler des enfants, que vous répondiez à une question dont je n'ai pas complètement trouvé la réponse dans mes lectures. Comment sont considérés les enfants et peut-être les adolescents chez les Achuars?
C'est très variable. À vrai dire, pendant la première période, pendant le plus long terrain que j'ai fait avec ma compagne, nous n'avions pas d'enfants. Nous sommes restés presque 3 ans et ensuite nous sommes revenus à plusieurs reprises avec nos enfants, et avec nos enfants jeunes, mais dans des conditions qui permettaient en fait de les amener parce qu'il y avait une petite piste d'atterrissage et une radio onde courte qui, en cas de besoin, permettait de faire venir un petit avion pour évacuer s'il y avait un problème. Donc c'était pas complètement de l'inconscience de partir avec nos enfants, on avait pris beaucoup de précautions. Et c'est quand nous sommes allés là-bas avec nos enfants que, moi en tout cas, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'étaient les enfants là-bas. Ils faisaient simplement partie, quand j'étais sans enfant, de l'entourage en quelque sorte. Et j'étais peu attentif à leur présence. Et c'est lorsque je les ai vus interagir avec mes enfants, que j'ai vu mes enfants interagir avec les enfants de localement, que je me suis rendu compte du monde que c'était. Alors, c'est pas très original de dire que chez les Achuars, comme dans beaucoup de populations prémodernes, dans lesquelles, à l'époque, il y avait des endroits où il commençait à y avoir un peu des écoles bilingues, avec des enseignants qui venaient de l'ethnie voisine, qui avaient été en contact plutôt avec le front de colonisation et qui donc avait appris l'espagnol et les rudiments, en somme, d'un métier d'instituteur. Et puis, il y en avait d'autres où il n'y avait pas du tout de scolarisation officielle. Et les enfants, dans ce cas-là, étaient, au fond, très tôt confrontés à la nécessité de remplir des rôles qui seraient ceux qu'ils allaient occuper plus tard comme adultes. C'est tout particulièrement frappant pour les petites filles, et ça m'avait frappé lorsque nous sommes allés sur le terrain avec notre fille. La première fois, elle devait avoir 8 ans, est immédiatement mobilisée dans le monde des femmes pour s'occuper des autres enfants, pour aider à la cuisine, pour aider au ménage, pour travailler dans les jardins. Donc très vite, les petites filles sont socialisées dans les rôles féminins dominant chez les Achuars. En revanche, les petits garçons ont une liberté totale. Et ça m'a beaucoup frappé. Ils sont, surtout lorsqu'il y a les Achuars vivaient en habitat dispersé, maintenant ils sont regroupés en hameaux, précisément parce qu'il y a des petites écoles ou des centres de santé. En habitat dispersé, les petits garçons passent la journée à pêcher, à se baigner dans la rivière, à fabriquer des radeaux, en fait à mener une existence fascinante pour un petit garçon, et sans se plier au fond à des tâches collectives. Et une fois, j'avais été très frappé. Il y avait un père de famille qui demandait l'aide de son fils qui passait au loin comme ça pour faire je ne sais quoi, quelque chose dans la maison. Et donc il l'appelle, lui dit « Viens ici, j'ai besoin de toi ». Et le garçon l'a regardé, puis s'est détourné, il a continué son chemin et le père haussait les épaules. C'est comme ça, si je veux dire. Et cette liberté des garçons, elle vient contraster avec la situation qui leur est faite lorsqu'ils se marient, puisque c'est dans cette société, comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés du monde amazonien, la résidence après le mariage est, comme on dit dans notre jargon, uxori local, c'est-à-dire qu'ils vont vivre chez les parents de l'épouse. Et là, le garçon est soumis à un contrôle extrêmement strict. Il doit aider son beau-père à faire des abatis pour les jardins, aller à la chasse, etc., etc. Et donc, alors qu'il vivait dans une liberté totale jusqu'à 18 ans, à peu près, tout d'un coup, il se voit contraint. Et j'imagine que ça ne doit pas être facile, ce changement de régime, cet assujettissement au beau-père. Et donc, les apprentissages se font chez les garçons par imitation des plus âgés. Et les apprentissages, c'est quoi ? C'est la connaissance de la forêt, c'est l'observation des animaux, c'est leur métier, en quelque sorte, c'est de devenir des chasseurs. Et un chasseur, c'est quelqu'un qui, non seulement est capable de tuer des animaux, mais qui est capable de les trouver, et donc qui est attentif à tous les indices qui se présentent. Et, par exemple, on va faire un garçon, il chasse à la sarbacane, il chassait à l'époque en tout cas à la sarbacane, et on va faire à un garçon, son père va lui faire une petite sarbacane, ce qui sont des beaux instruments, c'est pas simplement un tube de bambou percé, c'est des armes magnifiques qui sont faites de ce type de palmier très travaillé, poli, etc. Et il va lui faire une petite sarbacane pour qu'il apprenne à chasser dans les jardins, par exemple. On conserve dans les jardins des arbres fruitiers au moment de l'abatis, de façon à ce qu'ils attirent des oiseaux, et deviennent des postes d'affût pour les garçons qui apprennent à chasser comme ça. Et donc, progressivement, par émulation, par le partage avec les adultes, qui sont assez souvent, pour les garçons, des beaux-frères, c'est-à-dire justement des garçons plus âgés qui sont venus dans leur maison parce qu'ils ont épousé l'une de leurs sœurs. Les beaux-frères jouent un rôle. Il y a des liens assez étroits d'affection qui se tissent avec les beaux-frères, et les garçons apprennent par ce biais-là. Donc c'est un processus par imprégnation, observation. Il y a très peu d'instructions formelles qui sont données. C'est une région où il y a une densité de population très faible et où l'on peut se perdre. Et il arrive même que des Amérindiens se perdent. Et lorsque l'on se promène en forêt, souvent les parents disent aux enfants « Regarde, ça c'est un arbre que tu peux utiliser si tu te perds parce qu'il y a des fruits ». En saison, évidemment. Et donc, c'est des conseils, en quelque sorte, utiles, qui sont donnés comme ça, au fil de la démarche en forêt. Et puis, évidemment, il y a des apprentissages qui sont plus techniques, comme de fabriquer une sarbacane, par exemple.
Du coup, est-ce qu'il y a un cours sur fabriquer sa sarbacane, ou pour les filles, sur à tel moment, il faut, faire des boutures ou ramasser tel fruit. Est-ce qu'il y a des moments d'explication à la mode de ce qu'on peut peut-être faire nous, je ne sais pas si on peut dire eux et nous, mais enfin voilà, de ce que les parents en Occident ont l'habitude de faire?
Non, il y a peu d'explications formelles. C'est essentiellement par observation. Pour reprendre l'exemple de la sarbacane, c'est parce que un adulte est en train de faire une sarbacane et donc il montre ce qu'il faut faire, les différentes étapes. Il peut demander ou suggérer à un enfant ou un adolescent de réaliser certaines des opérations lui-même en corrigeant lorsqu'il fait des erreurs. Et c'est la même chose pour les filles. Là aussi, c'est par observation. Alors, il y a des petites indications, bien sûr. La poterie, par exemple, ça suppose la maîtrise des arts du feu. Ça suppose que l'on sache bien sélectionner l'argile pour faire les bols et les plats, qu'on détermine le bon degré de cuisson, etc., etc. Donc, il y a des petites indications comme ça, mais pour l'essentiel, c'est par observation. Il n'y a pas de cours formel, en quelque sorte. Les seules transmissions formelles qui se fassent, ce sont des transmissions de chants magiques, transmis à l'adolescence, à partir de l'adolescence, et qui sont absolument indispensables, puisque ce sont des chants qui sont chantés sotto voce ou même silencieusement, qui sont des discours de l'âme, qui sont chantés par l'âme du locuteur, donc, et qui s'adressent directement à l'âme du destinataire, que ce destinataire soit un humain ou un non-humain, un esprit ou un animal ou une plante, etc. Et ces chants, il faut pouvoir les restituer exactement tels qu'on les a appris. Et donc là, l'apprentissage se fait sous la forme de la répétition, c'est-à-dire que celui qui enseigne le chant, pour une femme, c'est une mère, c'est une belle-sœur, c'est une tante, qui va dans un endroit à l'écart chanter ce chant jusqu'à qu'il soit bien appris. Et c'est la même chose pour un homme, c'est un père ou un beau-père ou un beau-frère. Et alors il y a des exercices aussi de pratique. Je pense en particulier, il y a dans les arts oratoires, il y en a un qui est très compliqué et que moi je n'ai jamais réussi à maîtriser, qui s'appelle Orkmatin et qui est un discours rituel, qui est très codifié. Et qui peut durer assez longtemps, jusqu'à une demi-heure, dans lequel le contenu sémantique échangé est très faible, mais par lequel on rend compte de la maîtrise avec laquelle on maîtrise le langage. Parce qu'il ne faut jamais répéter les mêmes formules, et il faut, en fait, il y a un système d'alternance, c'est-à-dire que c'est un dialogue rituel, parce qu'à un certain moment, il y a une formule qui fait comprendre à l'autre que c'est à lui de répondre, etc. Et ça peut durer, et c'est quasiment chanté, c'est-à-dire qu'il y a un rythme, il y a une prosodie de ce discours. Et c'est très important, le prestige masculin est fondé sur différentes choses, sur le fait d'être un bon guerrier, sur le fait d'être un bon chasseur, mais aussi sur l'art oratoire, et notamment sur cette capacité à exécuter des discours rituels avec force, puissance de conviction et habileté rhétorique. Et les garçons, je me souviens d'avoir un jour assisté à un de ces échanges entre deux adultes qui était particulièrement réussi, et les garçons de la maisonnée écoutaient avec attention, et les jours suivants, je les entendais un peu à l'écart répéter entre eux, s'entraîner entre eux pour ce genre de discours. Donc là, il y a véritablement un apprentissage de ce genre de maîtrise de la langue.
Un sujet aujourd'hui préoccupe beaucoup les chercheurs qui s'intéressent à l'enfance, c'est celui de la domination. Je lis beaucoup de sociologie. Bernard Laye a publié un livre sur les structures fondamentales des sociétés humaines où il interroge, entre autres sujets, la domination des adultes sur les enfants, des grands sur les petits. Qu'en est-il chez les natuars?
Il n'y a pas véritablement de domination. Il est très rare qu'il y ait des châtiments corporels. Ça m'est arrivé d'en voir. En général, on fouette avec des orties, qui est désagréable, mais c'est pas. Mais c'est rarissime. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette anecdote du père qui demande à son fils de venir l'aider, si le fils refuse, il n'y a pas de conséquence. Donc cette domination, elle est relativement légère. De ce point de vue-là, il n'y a pas de fugue, par exemple, c'est-à-dire de volonté d'échapper à un monde familial oppressant. Les seules circonstances adverses, c'est lié à la guerre, c'est-à-dire qu'il arrive que dans des raids, enfin il arrivait, puisque c'est une chose du passé maintenant, un homme soit tué et que le groupe de guerriers qui tue cet homme enlève la femme, et en général enlève la femme avec les enfants. Et donc on se retrouve pour la femme comme pour les enfants, tout d'un coup, dans un foyer, dans des circonstances un peu paradoxales, puisque le maître de maison est la personne qui a tué votre père. Donc il arrive là qu'il y a des situations difficiles. Mais on ne peut pas parler de domination générale, à l'instar de Laïr, des adultes sur les enfants en l'occurrence, mais de situations tout à fait singulières qui sont celles d'un beau-père. Il y a d'ailleurs des mythes qui parlent de ces conflits entre le beau-père et les enfants, et quelquefois aussi la belle-mère, la marâtre aussi, comme chez nous d'ailleurs, et les enfants, parce que c'était des situations assez communes. La domination, je l'ai trouvée par rapport aux contraintes, au fond, auxquelles sont soumis les enfants dans le monde occidental, beaucoup plus légère. Encore une fois, les enfants ont je l'ai dit déjà, les petits garçons en particulier ont une grande liberté d'action. Et les filles, finalement, sont intégrées dans les activités domestiques très tôt, sans qu'on les contraigne ou brutalise pour cela. Et finalement, il ne m'a jamais paru qu'elles en souffraient outre mesure. Alors, c'est vrai que ma fille, par exemple, était un peu surprise parce que c'était pas son habit. À 7 ou 8 ans, on a un désir d'indépendance et on n'a pas envie d'être en permanence avec les femmes, comme c'était son cas, à remplir des tâches domestiques. Donc ça l'avait frappé. Mais pour les filles, Atchouar, je ne pense pas que ce soit ressenti comme un poids. Et donc les mythes, il faut prendre les mythes avec précaution. Il ne faut pas les prendre comme des recueils de valeurs, par exemple. Mais néanmoins, les mythes sont intéressants parce qu'ils présentent souvent des situations problématiques. En dehors du rapport entre des enfants et des parâtres ou des marâtres que j'évoquais tout à l'heure, qui sont présents dans les mythes, je ne vois pas de situation décrite par les mythes dans laquelle il y aurait des conflits majeurs entre des enfants et leurs parents immédiats. Alors, il faut dire aussi que les maisonnées, y compris en habitat dispersé, c'est des grandes maisons, c'est-à-dire c'est des familles polygames, et donc ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup d'enfants en particulier, qui viennent de lits différents, mais qui se perçoivent tous comme frères et sœurs. Et donc, à l'intérieur de ces maisonnées, qui peuvent contenir jusqu'à une trentaine de personnes, l'éducation des enfants, ou l'apprentissage pour les enfants, elle est le lot de tous. C'est-à-dire que les enfants sont pris en charge, y compris les petits, soit par les germains les plus de la même lignée, soit par d'autres enfants, soit par d'autres femmes, etc. Et donc, il y a une collectivisation, en somme, du rapport des adultes aux enfants, qui est un trait tout à fait caractéristique de ce genre de société.
Ça a dû énormément marquer vos enfants, cette expérience.
Oui, alors ça a surtout été difficile, le retour, si je puis dire. Comme je disais tout à l'heure, le retour est toujours difficile pour les adultes comme pour les enfants. Surtout été difficile pour mon fils qui, effectivement, s'est trouvé dans un état de liberté totale pendant plusieurs mois, un peu comme on l'est en vacances, en quelque sorte, sans obligation, si ce n'est de revenir à intervalles réguliers pour se faire nourrir. Et effectivement, le retour avec les contraintes de la scolarité et de rythme de vie, en somme, mieux structuré, n'a pas été facile. Pour notre fille, comme je disais tout à l'heure, elle avait été prise en charge par les femmes, c'est-à-dire par les filles plus âgées et par les femmes mariées. Et donc, ça n'a pas eu, je crois, beaucoup d'effet de ce point de vue-là, si ce n'est qu'elle a été très tôt confrontée, à 8 ans, à des responsabilités importantes, c'est-à-dire de s'occuper d'enfants plus jeunes, de faire la cuisine, d'aller chercher du manioc dans les jardins ou des choses comme ça. au fond, ça déresponsabilise les garçons et ça responsabilise les filles.
Là, on retrouve quand même des traits qu'on connaît et qu'on voit peut-être dans notre vie. Je n'irai pas plus loin. Aujourd'hui, il y a des projets d'écoles dans la forêt qui se multiplient en France, où on montre par exemple les cours d'école dans les pays scandinaves qui sont très ouvertes sur la nature. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces projets, vous qui défendez bien une approche du vivant, où justement, c'est pas de la nature dont on parle, puisqu'on en fait partie de cet environnement. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous êtes sensibilisé, même l'école dehors, à minima, d'être un peu plus à l'extérieur, ça peut être intéressant.
Oui, oui, j'observe avec beaucoup d'intérêt ces mouvements. Au Japon aussi, il y a tout un mouvement d'école en forêt qui s'est développé et qui vont à l'encontre, au fond, de la séparation entre la salle de classe d'un côté et puis le monde des milieux environnants et surtout à la campagne, qui était, la porosité était beaucoup plus grande il y a encore quelques dizaines d'années, voire au début du siècle dernier. Il suffit de lire le Grand Moulne, par exemple, pour voir comment cette continuité s'exerçait. Et le fait, par exemple, qu'à la campagne, les enfants, pour aller à l'école et en revenir, devaient marcher pendant longtemps, hiver comme été, au contact de la forêt, des prés, des rivières. Et que à l'époque, les maîtres d'école étaient formés à des leçons, de ce qu'on appelait les leçons de choses, c'est-à-dire à expliquer, au fond, des phénomènes élémentaires des organismes biologiques. C'est une chose qui s'est un peu perdue. Moi, je me souviens effectivement que les premiers cours de sciences naturelles que j'ai suivis en sixième au lycée, c'était en effet des choses assez abstraites, même si j'avais un très bon prof de sciences naturelles. Mais effectivement, faire les fameuses dissections de grenouilles, des choses comme ça, c'est pas ça qui vous conduit, au fond, à apprécier la complexité des écosystèmes. Ce qu'on apprend, c'est des mécanismes physiologiques dans ces enseignements, et donc tout ce qui permet de resituer l'apprentissage de ces mécanismes qui sont importants. Il faut savoir ce que c'est que la production végétale, comment est-ce que les animaux s'alimentent, comment les oiseaux migrateurs se retrouvent à certains endroits, à certaines périodes de l'année. C'est des choses qui sont fondamentales, mais les observer aussi in situ me paraît très important. Et ça, donc ça, c'est un mouvement qui effectivement prend de l'ampleur, et je trouve que c'est une excellente chose, parce que ce que j'appelle le naturalisme, c'est-à-dire cette révolution anthropologique qui a commencé à se dessiner à partir du XVIIe siècle et qui a conduit les Européens à se considérer comme extérieurs et supérieurs à ce qu'ils appelaient la nature, c'est-à-dire l'ensemble des non-humains. Cette révolution anthropologique, elle a eu toutes sortes d'effets, mais néanmoins cet effet de couper des liens, sauf pour certaines personnes. C'est très difficile de généraliser. Il suffit de lire Giono ou Rabolio, qui est un exemple que je prends souvent, le braconnier Solonio, ou bien le Chant du Monde de Giono, pour observer des gens qui, il n'y a pas très longtemps encore, vivaient dans les forêts ou dans les montagnes des Hautes-Alpes, comme les Alchouars vivaient dans leurs forêts, d'une certaine façon.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Je vais revenir, Philippe Descola, sur votre métier d'anthropologue. Quand on se retrouve parmi des gens dont on ne parle pas la langue, on est quand même obligé de tout réapprendre. Ça va jusqu'à aussi la manière de s'asseoir, la manière de manger. Et ça, c'est une certaine école. Vous avez le goût de ces apprentissages ?
Oui, c'est une forme de socialisation. Effectivement, on est traité à juste titre comme des enfants, puisqu'il faut tout nous apprendre. Et c'est une socialisation qui... une nouvelle socialisation, puisqu'elle passe, comme vous venez de le dire, aussi par des apprentissages physiques. Il faut apprendre à dormir d'une façon particulière, il faut apprendre à s'asseoir d'une façon particulière. Les postures, il y a des habitudes que j'ai conservées, par exemple, que j'ai trouvées très, très intelligentes. Quand on se rince la bouche, après un repas, chez les adjoints, on se rince la bouche, on fait passer un bol d'eau, on se rince la bouche, et une fois qu'on s'est rincé la bouche, on fait couler un filet d'eau sur ses mains pour se laver les mains. C'est très efficace quand on est en randonnée, par exemple, pour se laver les mains. Et il y a toutes sortes d'apprentissages de ce type-là qui sont... Certains sont demeurés, comme celui que je viens d'évoquer. D'autres se remettent en place quand je repars sur le terrain. Immédiatement, je retrouve des habitudes corporelles que je pensais avoir perdues. Mais il faut donc effectivement tout apprendre, non seulement la langue, mais aussi... les choses les plus élémentaires. D'une certaine façon, l'ethnologie, c'est ça, c'est un apprentissage qui, au départ, alors bien sûr, on questionne les gens, mais l'idéal, c'est quand on arrête de leur poser des questions et lorsque l'on comprend la langue et qu'on écoute les conversations, on en apprend beaucoup plus qu'en posant des questions, parce que quand on pose une question, on court toujours le risque de préformer par la question la réponse que l'on va obtenir. L'avantage de cette immersion, en quelque sorte, c'est qu'on finit par ne plus se poser de questions. On devient comme un meuble dans un coin de la maison et on absorbe tout ce qui se passe. Et c'est une socialisation qui est intéressante parce que, un peu comme à l'école, lorsqu'on réussit à faire quelque chose, lorsqu'on réussit à formuler, par exemple, une question ou à dire quelque chose qui retient l'attention de vos interlocuteurs, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose de sérieux. Ou lorsque l'on accomplit une opération, lorsqu'on ramène quelque chose de la chasse ou de la pêche, par exemple, on se dit « Ah tiens, on n'est pas aussi emmanché qu'on pouvait le craindre ». Au fond, l'enquête ethnographique, c'est d'abord l'apprentissage des codes et des manières de faire qui sont nécessaires pour que la vie quotidienne devienne moins difficile et que les rapports avec les gens soient plus harmonieux. Et c'est ça d'abord, l'enquête ethnographique. Sinon, la vie serait un enfer.
C'est très compliqué comme langue. Les structures grammaticales ne sont pas du tout les mêmes. On n'a pas de repères. Enfin, j'imagine que vous n'en aviez pas beaucoup.
Alors, on avait quand même à notre disposition une petite grammaire qui avait été faite par des missionnaires salésiens du dialecte voisin, qui est différent de l'achuar, mais quand même pas terriblement différent, pas plus différent que le français de l'espagnol ou de l'italien. Donc il y avait déjà une base de grammaire, et puis il y avait un lexique aussi de cet autre dialecte, le achuar, fait par des missionnaires salésiens. Donc il y avait ça, et on a mené un travail systématique, mais ça nous a pris quand même presque un an pour arriver véritablement à pouvoir communiquer sans grande difficulté, et dans une langue qui était nécessairement toujours simplifiée d'une certaine façon, parce que c'est une langue avec beaucoup d'éléments morphosyntaxiques complexes qu'on ne maîtrise pas comme ça. C'est-à-dire c'est une langue dite agglutinante, c'est-à-dire qu'il y a des racines auxquels on ajoute des suffixes et des préfixes pour les modifier. Donc ce n'est pas une langue flexionnelle comme les langues européennes, comme les langues germaniques ou romanes. Et donc il faut réfléchir assez longtemps pour savoir quel type de préfixes ou de suffixes on doit ajouter, et l'ordre dans lequel on doit les mettre, parce qu'il faut les mettre dans un ordre précis. Et quelquefois, en fonction de leur ordre, la prononciation va changer. C'est un problème de phonétique, c'est-à-dire que les préfixes se combinent mal sur le plan phonétique. Donc il faut, par exemple, faire ce qu'on appelle des métatests, des inversions phonétiques. Donc effectivement, ça prend du temps. Alors, on l'a longtemps pratiqué avec ma compagne, notamment justement pour lorsque on voulait se dire des choses et qu'on ne souhaitait pas que les enfants le comprennent. Et donc on n'a pas utilisé l'anglais ou l'espagnol, mais lorsqu'ils ont compris l'anglais ou l'espagnol ou l'allemand d'ailleurs, on s'est mis à utiliser l'Hatchword. Bon, les enfants ont quitté la maison maintenant, donc on le fait moins souvent. Ça m'arrive de lire des textes, ça, et puis je suis retourné sur le terrain en 2018. Je me suis aperçu que j'arrivais à dire des choses quand même, au grand étonnement d'ailleurs de mes interlocuteurs. Le problème, c'est que quand on arrive à dire des choses, vos interlocuteurs pensent que vous maîtrisez parfaitement la langue, même si vous la maîtrisez en fait assez mal, et donc vous ne comprenez pas ce qu'ils vous répondent. C'est ça le problème. Donc il faut longtemps avant de franchir ce cap.
J'avais très envie d'entendre le tuar, la langue des atuars. J'ai donc demandé à Philippe Descola de me dire quelques mots.
Yuchiri mama yuattaram. Ça veut dire les enfants mangeaient du manioc. C'est un impératif. Yuattaram. Apachin mama yuattin nakitiahe. Papa, je ne veux pas manger des manioc.
Mais c'est toute une vie du quotidien que vous avez partagée. Donc, ces phrases, vous les avez entendues, Philippe Descola. En lisant un petit livre publié chez Bayard l'année dernière, tiré d'une conférence donnée à des enfants, j'ai un exemple qui m'a fait beaucoup rire. Vous parlez de la BD Rahan. Et Rahan, c'est un fils des âges farouches. Donc, on n'est plus du tout chez les âges farouches. On est chez les hommes du néolithique. Et il apporte un peu le progrès. À cette époque-là, c'est de devenir sédentaire, d'abandonner la cueillette et la chasse pour l'agriculture et l'élevage. Vous dites, il arrive triomphant. On a vraiment grandi, en tout cas ma génération, les années 70, 80, 90, dans cette idée très positiviste et puis d'un progrès en continu qui est totalement battu en brèche par les connaissances actuelles. Connaissances dont je me demande dans quelle mesure elles arrivent aujourd'hui dans les cursus scolaires. Pour vous, comment il faudrait raconter cette histoire de progrès humain, si ça a un sens, et quels mots il faudrait utiliser en s'adressant à des enfants ou des adolescents ?
D'abord, le mot progrès est problématique parce que c'est un progrès de quelle nature ? Je disais souvent à mes étudiants à propos des aborigènes australiens qu'effectivement, l'ensemble de la culture matérielle des aborigènes, elle tient dans un musée, dans une vitrine, mais que leur culture intellectuelle, si je puis dire, elle tient dans des bibliothèques entières, parce qu'ils ont inventé des systèmes de classification des plantes et des animaux, des systèmes de classification sociale, le totémisme, qui est une ontologie tout à fait singulière, qui sont d'une complexité, des systèmes de mariage, bien sûr, qui sont des systèmes d'une complexité infinie. Et donc, et si on considère que le progrès, c'est un progrès intellectuel, les aborigènes sont très en avance sur nous en matière de la complexité des institutions sociales qu'ils ont su imaginer, même si sur le plan matériel, la culture matérielle, les systèmes techniques peuvent paraître rudimentaires. Cela dit, ça dépend aussi à quoi on fait servir les systèmes techniques. C'est-à-dire, si l'objectif, c'est de se nourrir, de se protéger des intempéries et de pouvoir se déplacer commodément sans y consacrer 10 heures par jour, les chasseurs-cueilleurs sont formidables. Ils travaillent pour certains d'entre eux, 2 heures par jour, travail au sens de travailler pour ces activités que je viens de mentionner, les atchoirs à peine plus. Et donc le reste du temps est consacré aux loisirs, aux discussions, à la vie sociale. Donc il y a, si on considère que le progrès, c'est avoir des écrans plats dans une grande maison, dans toutes ses chambres, effectivement, ils n'ont pas accès à cela. Mais si le progrès, c'est de pouvoir vivre une vie épanouie en travaillant le moins possible et en ayant une très grande richesse de vie sociale, Je pense que la société présente constitue une régression profonde, puisqu'on parle de progrès vis-à-vis de cette situation.
Philippe Descola, vous qui avez eu des grands maîtres, Claude Lévi-Strauss, faut-il le rappeler, vous avez connu Maurice Godelier et tous les grands anthropologues du XXe siècle, évidemment. Vous donnez aussi des conférences à des jeunes, un jeune public. Vous écrivez des livres beaucoup plus accessibles. Là, j'en ai un devant moi, Une écologie des relations. Ça a été publié au CNRS Édition. Et quelques pages pour connaître votre pensée, c'est extrêmement intéressant. En quoi cette vulgarisation, je ne sais pas si le mot vous convient, de votre travail vous apporte quelque chose?
Je pense que c'est important de donner à connaître les résultats des travaux que l'on mène. D'abord parce que les chercheurs... comme moi, sont financés sur les deniers publics, et donc c'est la moindre des choses que les gens qui financent les recherches soient mis au courant de leurs enjeux et de ce qu'elles permettent d'apporter. D'autre part, il me semble, depuis pas mal de temps maintenant, que les modes de vie des populations autochtones sont riches d'enseignements pour faire front au nouveau régime climatique, ce qu'on appelle l'anthropocène et que je préfère appeler le capitalocène, c'est-à-dire à la détérioration des conditions de fonctionnement du système Terre sous l'effet du capitalisme industriel et post-industriel. Et donc si les réflexions qu'on peut tirer de la connaissance des populations autochtones peuvent avoir un sens... si elles peuvent permettre de stimuler l'imagination pour imaginer d'autres formes de rapport entre humains et de rapport entre humains et autres qu'humains, à ce moment-là, le principal devoir qu'on a, surtout qu'on aura un peu plus de loisirs, puisque je n'enseigne plus maintenant, en tout cas plus de façon régulière, c'est de faire connaître ces choses-là.
Moi, j'ai assisté à une conférence que vous avez donnée sur... le campus Condorcet à l'occasion du Printemps des Humanités. C'est une manifestation annuelle dont l'objectif, bien, c'est de défendre la place des humanités aujourd'hui. On peut dire que le travail va peut-être être plus compliqué dans les années qui viennent, étant donné le contexte pour les sciences sociales. Mais voilà, les sciences sont attaquées aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous défendre les humanités, Philippe Descola?
Alors, défendre les humanités, c'est ne pas défendre un corpus de connaissances immuables qu'on se transmettait en Europe depuis les collèges jésuites jusqu'à mon enfance, fondée sur la connaissance des grands classiques, notamment de l'Antiquité. C'est réfléchir à ce que la connaissance permet lorsqu'elle enrichit la vie. Et cette connaissance, elle est de toute nature. C'est pour ça que les humanités se renouvellent en permanence. C'est-à-dire, bien sûr, je parlais tout à l'heure du choc que j'ai eu en lisant des versions pour enfants de l'Iliade et de l'Odyssée. Et donc, je ne regrette pas du tout d'avoir été exposé à ces humanités-là. Je ne regrette pas du tout d'avoir été exposé aux romans picaresques. Ou à Shakespeare, mais ces humanités-là, elles sont le reflet d'une humanité particulière. Et donc je pense que ce qui est important, et c'est le rôle que pourrait jouer et que devrait jouer l'anthropologie, c'est d'agrandir à des humanités qui peuvent paraître périphériques à présent, ce socle des humanités, c'est-à-dire d'avoir accès à un répertoire de savoir, de connaissance, de sagesse, hein, qui va bien au-delà de celui qui nous a été transmis par deux millénaires et demi de traditions savantes autour de la Méditerranée, disons. Et je pense que si l'anthropologie a un rôle à jouer, c'est d'enrichir ce corpus que je viens d'évoquer. Et je me rends bien compte que ce n'est pas la direction que l'on prend actuellement avec la révolution conservatrice, puisque aux États-Unis, Donald Trump, par exemple, a voulu remettre la main sur une institution que j'admire beaucoup, qui est la Smithsonian Institution, qui a été créée aux États-Unis pour développer la connaissance et la popularisation, en quelque sorte, des différentes composantes de la culture américaine, notamment des cultures amérindiennes. Et donc, dès la fin du 19e siècle, la Smithsonian Institution a développé un programme systématique d'enquête ethnographique d'une très, très, très grande richesse, de façon à faire comprendre aux citoyens des États-Unis que le melting pot dans lequel ils vivaient était aussi composé de gens qui vivaient là avant l'arrivée des puritains en Nouvelle-Angleterre, et que les populations qui s'étaient rajoutées, notamment celles qui étaient venues contraintes et forcées, je pense aux esclaves venus d'Afrique de l'Ouest, composaient aussi un élément d'une grande richesse de cette civilisation hybride. Et donc j'espère que la reprise en main de la Smithsonian Institution par l'administration Trump ne va pas aboutir à dévaluer ou même détruire ces savoirs, ces trésors de savoirs accumulés qui contribuent au fond. Parce que les humains, si on doit définir la nature humaine, ce qui est une opération extrêmement dangereuse, je dirais que les humains sont des producteurs de différences. Et donc, ils produisent de la diversité. Et c'est cette diversité qui doit être préservée. De la même façon que la vie produit de la diversité. Et que on sait, au fil des deux derniers siècles, on a porté atteinte à cette diversité par l'extinction d'un très grand nombre d'espèces liées au développement des énergies fossiles et de l'occupation de la planète par le capitalisme. De la même façon, la diversité des langues, la diversité des façons de faire, la diversité des imaginaires, quelque chose d'absolument central, au fond, et doit être préservé.
Un grand, grand merci à Philippe Descola dans son immense bibliographie. Quelques titres à proposer aux ados avec Les chasseurs-cueilleurs dans la collection Les petites conférences publiée chez Bayard. Il y a aussi Une écologie des relations chez CNRS Éditions. Et enfin, La composition des mondes, soit un entretien avec Pierre Charbonnier publié chez Flammarion et tout à fait accessible. Être et savoir, c'est aussi toute une bibliothèque de podcasts, de grands entretiens sur l'éducation et puis sur tous les sujets éducatifs.